Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Santé publique, besoin énorme à Rutshuru. Le docteur Claude Bakunzi salue l'appui de l'ONG à Lima, mais alerte sur les défis persistants. Entrepreneuriat congolais à l'honneur. 4 lauréats distingués parmi les 383 candidatures au prix Ubora. Examen d'État 2026, plus d'un million de finalistes. Hubert Kimbonza Sefou, l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui est l'invité de ce journal, dresse un bilan positif et promet des résultats plutôt grâce au scannage. Avant d'aller plus loin, d'abord sachez que le général Likulia Bolongo, dernier premier ministre du maréchal Mobutu en avril 1997, est docteur en droit et décédé en France le 25 juin 2026 à la suite d'une maladie à l'âge de 87 ans. Ancien ministre au sein du gouvernement de Laurent Désiré Kabila, Likulia était également candidat président de la République aux élections de 2006. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au Nord Kivu, plus de 42 000 personnes retournées dans la zone de santé de Rutshuru ont bénéficié pendant un an de soins gratuits après des mois passés dans des camps autour de Goma. Un appui assuré par l'ONG Alima, dont le projet s'achève ce 30 juin. L'annonce a été faite à Kiwanja lors d'un atelier de restitution. Si le docteur Claude Bakunzi salue ses efforts, il rappelle que les besoins restent énormes pour cette population démunie. On l'écoute au micro de Rosalie Zawadi.
Le départ d'Alima, c'est un regret pour toute la population de Rutshuru, en ce sens que Alima a appuyé trois structures de la zone de santé. Il y a l'aire de santé de Rugari, Kakomero et Kinyandoni. Pratiquement, les soins étaient gratuits au niveau de ces structures-là. Ils arrivaient à approvisionner ces structures en médicaments, la prise en charge du personnel et même des relais communautaires, ce qui permettait à la population d'accéder aux soins, surtout que le projet avait commencé juste quand il y avait des déplacés qui retournaient dans leur milieu d'origine, notamment Rugari Kakomero. Bon, malheureusement, le projet vient de prendre fin. Et on avait encore besoin de partenaires parce qu'il y a beaucoup de défis encore au niveau de la zone de santé. En tout cas, ils ont fait beaucoup de choses, mais on avait encore besoin de ces projets dans la zone de santé de Rutshuru.
Santé toujours en Ituri, dans le cadre de la lutte contre Ebola, les tradis praticiens de Bunia s'engagent à sensibiliser la population au respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de cette maladie hémorragique. Cet engagement fait suite à une session de formation organisée mardi dernier sur cette épidémie qui sévit depuis plus d'un mois dans 22 zones de santé de la province. Les praticiens de la médecine traditionnelle plaident toutefois pour l'octroi d'équipements de protection individuelle afin de limiter les risques de contamination. Martial Kizabiamongo.
Longtemps accusé à tort ou à raison de favoriser la propagation de la maladie à virus Ebola, les tradis praticiens ont été sensibilisés au mode de transmission de la maladie, aux mesures de prévention et aux bonnes pratiques pour freiner les risques de contamination. Cette activité a été organisée par la Fondation des Aigles pour l'encadrement des vulnérables dans le cadre de son projet intégré Watch et dit renforcement communautaire pour la prévention durable de la maladie à virus Ebola à Ituri. Ali Massoudi, praticien de la médecine traditionnelle, explique, je cite, « Nous recevons dans nos cabinets des malades qui manifestent des fois des signes similaires à Ebola sans savoir comment se protéger contre cette maladie. Pour le moment, nous sommes bien outillés pour mieux orienter des cas suspects dans les structures sanitaires. Nous demandons seulement que nous soyons dotés des matériels de protection individuelle pour se protéger contre toute contamination. » Des citations. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri poursuit sa prise de contact avec les acteurs engagés dans la stabilisation de la province. Ce jeudi, le général Gaby Kassongo a effectué sa première visite officielle dans les installations de la MONUSCO au camp Dromo à Bounia. Objectif, s'imprégner du travail des casques bleus et renforcer la coopération pour la protection des civils et le retour de la paix. Les points avec Jean-Claude Lokidile.
Cette visite a conduit le gouverneur dans plusieurs installations opérationnelles de la MONUSCO où il a découvert les capacités des contingents déployés ainsi que les mécanismes de coordination mis en place avec les autorités congolaises. Pour le commandant de la force de la MONUSCO à Ituri, cette coopération doit avant tout répondre aux attentes des populations meurtries par des années de conflit. Général Saiful Alam.
Les populations civiles ont déjà trop souffert. Nous devons unir nos efforts et travailler sans relâche pour amener une paix durable dans cette province.
À l'issue de la visite, le gouverneur militaire a salué le professionnalisme des casques bleus et a réaffirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec la mission des Nations Unies. Général Gaby Kassongo.
Mon engagement demeure total pour travailler avec tous les partenaires de bonne volonté afin de ramener la paix rapidement, de protéger nos populations civiles et de créer les conditions favorables au développement socio-économique de la province de l'Ituri.
Cette première visite dans les installations de la MONUSCO illustre la volonté commune des autorités provinciales et la mission de renforcer leur collaboration face aux défis sécuritaires qui persistent en Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Quatre entreprises congolaises ont été récompensées hier jeudi à Kinshasa lors de la deuxième édition du prix Ubora, une initiative de promotion de l'entrepreneuriat portée par l'incubateur I&Fi avec l'appui de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Les lauréats ont été sélectionnés parmi les 383 candidatures reçues à travers le pays. Les détails avec Jocelyne Moussaoponde.
Seuls 61 dossiers ont franchi l'étape d'éligibilité avant d'être soumis à l'évaluation d'un jury international. Les candidats ont été départagés sur plusieurs critères, notamment les performances financières, le potentiel de croissance, l'innovation ainsi que les impacts environnementaux et sociaux des entreprises. Dans la catégorie des PME, les distinctions sont revenues à Groupe Belao PC SARL et Hightech SARL, deux entreprises basées à Kinshasa. Dans la catégorie des nouvelles entreprises. Les lauréats sont Tanda de Goma et ICAM Groupe de Bounia. Les deux PME recevront chacune 25 000 euros ainsi qu'un voyage d'affaires en Europe prévu en février 2027. Les deux nouvelles entreprises bénéficieront quant à elles d'une prime de 5 000 euros et du même programme de voyage. Selon Valma Samba, directeur général de l'incubateur IEF, le prix Ubora récompense les entrepreneurs capables de créer de la valeur, d'innover et de contribuer au développement économique de leur communauté.
Restons dans la capitale. Corruption, favoritisme ou encore violation des règles de sous-traitance, autant de pratiques susceptibles de compromettre la transparence et la bonne gouvernance dans les secteurs stratégiques de l'économie congolaise. Pour prévenir ces dérives et offrir un cadre sécurisé de dénonciation, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés met en place un mécanisme de signalement et de gestion des plaintes. Dans un communiqué publié ce jeudi à Kinshasa, l'institution explique que cette initiative vise à renforcer la transparence, améliorer la gouvernance et consolider la confiance entre l'autorité, les entreprises principales et les autres acteurs de la sous-traitance. Les détails avec Grâce Amzati Masanzi.
Toute personne témoin ou victime d'un comportement contraire aux règles encadrant la sous-traitance peut désormais le signaler directement à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'ARSP annonce la mise en place d'un mécanisme de signalement destiné à recueillir les plaintes et dénonciations relatives notamment à des faits de corruption, de favoritisme, de fraude, de conflits d'intérêts, de non-respect de la réglementation en vigueur, de manquements aux règles déontologiques ou à toute autre pratique susceptible de porter atteinte à l'intégrité du secteur. Dans ces documents, l'institution précise que toute plainte ou tout signalement devra, dans la mesure du possible, être accompagné d'éléments de preuve. L'ARSP garantit également la confidentialité des signalements. Enfin, l'autorité avertit que tout auteur d'un comportement reconnu contraire aux règles des procédures et des probités s'expose à des sanctions. À travers ces dispositifs, la Direction générale réaffirme son engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption afin de promouvoir une gouvernance plus responsable de la sous-traitance et de faire de ce secteur un véritable levier de développement de l'entrepreneuriat congolais.
En plus bref, renforcer la collaboration entre les Africains à travers échange d'expériences et opportunités d'affaires, c'est l'objectif d'Afrique Tour, une initiative qui rapproche les professionnels du continent et de la diaspora. Son lancement a été marqué hier jeudi à Kinshasa par un cocktail de networking organisé par l'agence Axis for Strategic Communication. La première édition est prévue du 28 au 31 juillet en Côte d'Ivoire avec au programme des rencontres d'affaires, des ateliers et des activités culturelles. Au Kasaï oriental, lancement officiel ce jeudi des travaux de prospection géologique dans les villages de Katende dans le territoire de Miabi. La cérémonie présidée par le ministre des Mines a réuni le ministre des Mines, l'ambassadeur de la République populaire de Chine et de nombreuses notabilités de la province. Ce projet va générer les emplois et booster le développement de la province, ont indiqué les autorités sur place. Des explications avec Esther Dalafina.
Le projet baptisé Mika Mine de Cuivre du Kasaï résulte d'un partenariat entre la société minière de Bakwangamiba et deux entreprises privées LBK Construction SARL et Grec Ressources CRU. Implanté sur les concessions de la Miba, il vise une production annuelle estimée entre 200 000 et 500 000 tonnes de cuivre. Louis Watum Kabamba, ministre de Mines, estime que ce projet va favoriser le développement de la région.
Le projet dénommé Mika a donc l'ambition de transformer le potentiel géologique du groupe Kasaï en un véritable levier de développement humain, économique et social.
Selon le directeur général de l'AMIBA, ce projet va générer des recettes et des emplois.
À travers chaque actif valorisé comme celui-ci, cela signifie davantage d'emplois. Chaque kilo ou tonne de minerai qui sera produit, cela correspond davantage à des recettes pour l'État.
L'ambassadeur populaire de la Chine a pour sa part salué une coopération sino-congolaise qui s'est consolide.
Une fois les valeurs économiques et commerciales du projet soient confirmées, cela va revêtir une importance significative pour le développement minier et industriel de la province.
Outre les cuivres, le site de Katende recèle également d'autres minéraux, notamment le cobalt, le zinc et le plomb. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Au Kasaï central voisin, pendant ces temps, le carburant s'est fait de plus en plus rare à Kananga, entraînant une flambée des prix. Le litre d'essence se vend désormais entre 5500 et 6500 francs congolais contre environ 3500 francs il y a une semaine. Les vendeurs évoquent une pénurie du produit. Résultat, les frais de transport augmentent et les habitants ont de plus en plus de mal à se déplacer. Le point avec André Katende Ngalamouloumé.
L'essence devient un luxe à Kananga. En une semaine, le prix a presque doublé. Chez les revendeurs appelés localement Kadhafi, les litres se vendent désormais à 5500 francs congolais. Dans certaines stations-service, il atteint même 6500 francs. Il y a pourtant une semaine, les litres coûtaient environ 4000 francs à la pompe et 3200 francs chez les revendeurs. À l'origine de cette flambée, la pénurie des carburants, une situation qui complique le quotidien des habitants. Les tarifs du transport ont également augmenté. Pour de nombreux usagers, se déplacer est devenu un véritable défi. Boniface Kapanga en témoigne.
On payait 500 francs de Benemoukangala à Notre-Dame, mais actuellement, on a commencé à payer 1000 francs.
Les grossistes évoquent aussi des difficultés d'approvisionnement. Habituellement, ils se rendent à la frontière angolo-congolaise pour acheter du carburant. Mais sur place, les produits s'est fait de plus en plus rares et les prix ont fortement augmenté. Une vendeuse explique. À la frontière où nous allons acheter les carburants, on n'en trouve presque plus. Et même en Angola, d'où il provient, les prix ont augmenté. Les conducteurs des mototaxis n'ont eu d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs. Mais cette hausse décourage une partie des clients. Kananga, André Katende Ngalamouloumé, Radio Okapi.
Restons dans la province, la régie des eaux sort enfin de son silence après plus de deux semaines de perturbations dans la distribution d'eau potable à Kananga. Ce jeudi, le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba, a expliqué que la panne d'un moteur alimentant l'usine de production est à l'origine de cette situation. Il appelle la population au calme et à la patience. Selon lui, Les équipes techniques sont déjà à pied d'œuvre pour réparer l'équipement défectueux. David Chilumba assure que l'approvisionnement en eau potable devrait reprendre dans les meilleurs délais sans préciser la date.
Actualité internationale.
Au Mali, les habitants de Tombouctou sont dans l'épreuve. La ville aux 333 saints n'est plus desservie ni en électricité ni en eau depuis mardi 23 juin 2026. En cause, le manque de carburant. Les stations-service sont à sec depuis environ un mois et le marché noir lui-même est de moins en moins bien fourni.
L'invité.
Plus d'un million de finalistes du cycle secondaire ont participé du 22 au 25 juin à la session ordinaire de l'examen d'État 2026, organisée dans plus de 3267 centres en RDC et dans des pays frontaliers. Invité de Radio Capi, l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza Sefou, dresse un bilan globalement positif de ces épreuves certificatives nationales malgré quelques ratés. Il assure également que cette année, les résultats seront publiés plus tôt que les années précédentes grâce à la mise en place de 9 centres d'escanage. Hubert Kimbonza Sefou s'est entretenu avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Hubert Kimbonza.
Bonjour messieurs les journalistes.
Quel est le bilan de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026 qui vient d'être organisée du 22 au 25 juin sur toute l'étendue du territoire national?
Merci beaucoup messieurs les journalistes. Le bilan est largement satisfaisant. On a organisé cette session ordinaire à travers 3267 centres, y compris ceux en dehors de notre pays, et nous avions attendu 1,082,742 candidats, dont 483,842 filles, ce qui présente une très bonne avancée du côté genre, pour dire que les filles sont en train de s'efforcer pour être régulières dans des salles de classe et terminer leurs études secondaires. Nous avons pu prouver au monde entier que la République démocratique du Congo, à travers les 2,345,000 km² de la superficie, s'est s'organiser et tous les enfants ont pu passer cette épreuve. En disant tout, il y a effectivement eu des absences. Mais tout pour dire que tous les centres, à travers toute la République, ont ouvert et ont accueilli les candidats.
Alors, qu'est-ce que vous envisagez pour certains candidats qui ont raté un ou deux jours à la suite soit de l'insécurité ou de la résurgence de l'épidémie d'Ebola?
Messieurs les journalistes, retenez que le ministère ne peut organiser une session spéciale que si on apprend quelque part que tout un centre a connu un problème. Mais si c'est un cas individuel d'un candidat, et là, malheureusement, on ne peut rien. Mais pour ce qui est de l'épidémie à Ebola, je vous confirme que nous suivions de près la situation de tous les enfants congolais, y compris ceux qui étaient pris en charge par les centres en rapport avec Ebola. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir avaient leur cahier d'items sur place pour le faire.
Après les 4 jours, quels sont les grands défis qui restent pour l'inspection générale?
Le grand défi, c'est de battre notre propre record de publication dans la transparence, la fiabilité et la rapidité. Dans la rapidité, c'est pour vous dire que l'année passée, nous avions publié le dimanche soir, pour ne pas dire la nuit. C'est-à-dire que nous allons tout faire, et ça je vous confirme, pour publier à temps. La fiabilité, c'est dans les process. Faire en sorte que les enfants qui seront publiés soient effectivement ceux qui ont réussi parce que nos machines sont très fiables. Enfin, la transparence, pour qu'en cas de problème que l'on puisse vous montrer noir sur blanc, voilà ce que Blaise Ndongala est sur la photo et voici ce qu'il est réellement. Il est là devant vous, il se promène.
Le pays compte désormais combien de centres d'escanage?
Le pays compte à ce jour 7 centres d'escanage. Nous avons Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimayi. C'était, en plus de cela, nous ajoutons un centre dans l'espace Lubafone, c'est-à-dire Chikapa, un centre dans l'espace Ngalafone à Gemena, un centre dans l'espace Swahilifone Kisangani. Mais Swahilifone, c'est aussi les parties du nord et du sud Kivu. C'est comme ça que Butembo a été aussi récupéré.
Quel est le message que vous lancerez aux intervenants à cette session ordinaires, notamment les inspecteurs, les surveillants, les parents d'élèves, voire les candidats.
C'est le respect du serment des citoyens. Le respect du serment des citoyens, que ce soit pour les candidats, les intervenants au niveau du centre de passation, nous parents, nous promoteurs d'école, comment nous allons vivre les jours qui suivent avec la publication. Chacun de nous a pu s'aimer les moments de la récolte est arrivée. Les enseignants ont dispensé les cours. L'unique message, comme les sportifs le disent, d'accepter sportivement, c'est qui sera le verdict, le vrai verdict. Que ceux qui vont réussir continuent les études supérieures et universitaires. D'autres peuvent se dire qu'ils se lancent dans le monde des affaires, dans le monde professionnel. Courage. Et pour ceux qui vont échouer, ce n'est pas la fin du monde. Revenez aux études et aux parents. Ne vous fatiguez pas des enfants si l'enfant n'a pas réussi parce que il mérite votre soutien.
Monsieur l'inspecteur général à l'éducation, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est à moi de vous présenter mes très sincères remerciements.
C'était notre invité Hubert Kimbonza Sefou, l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée sur la radio de la paix. Ce journal a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jean-Gandou Kabongo et mise en onde des mains des maîtres par Pierre Diassinois. Vous pouvez le suivre sur notre page TikTok et le réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.